7h23, encore des manifestations hier, très pacifiques pour la plupart. Il y a eu quelques accrochages. On va y revenir avec Richard Châteauvert également. Deux cérémonies commémoratives suite au décès, au meurtre de George Floyd. Et j'en parle ce matin avec Grégory Charles qui a écrit un texte sur Facebook. Touche plusieurs aspects. Je pense que ça mérite qu'on s'y attarde ce matin. Grégory, bonjour.
Bonjour, Paul.
Avant de parler de ton expérience personnelle, je veux revenir sur ton père, dont tu parles beaucoup dans le texte, et notamment, tu nous apprends qu'il a marché à l'époque, 1963, Washington, lors du fameux discours de Martin Luther King. Il t'a raconté ce souvenir-là de quelle façon?
De façon très humble, en fait. C'est ça qui est surprenant. C'est que, compte tenu de l'ampleur de cet événement-là, puis des autres événements auxquels il a participé avec Martin Luther King, compte tenu de l'ampleur, il aurait pu faire « Tu sais, moi, j'étais là, blablabla. » quand... Mais il en parlait vraiment juste comme un témoin. Puis pourtant, ça a été une grosse partie de sa vie. La raison pour laquelle mon père est venu à Montréal en 1965, donc 2 ans plus tard, c'était pour livrer un discours de Martin Luther King dans une conférence qui avait lieu dans Pointe-Saint-Charles. Alors, il était suffisamment proche pour qu'on lui fasse confiance pour des raisons quasi diplomatiques. Mais la façon qu'il me racontait ça, il me le racontait toujours du point de vue du témoin, pas du point de vue de quelqu'un qui jugeait ou de l'historien qui aurait dit voici la valeur de ce qui se passait. Il était juste là, puis il me disait son point dans le cas de 1963, ce qu'il me disait, tu sais, Martin Luther King était venu pour argumenter un point intellectuel, il était venu pour dire à 250 000 personnes, on est venu pour cacher un chèque sur une promesse qui nous a été faite il y a 100 ans, puis qui n'a toujours pas été tenue. Puis son point, c'était de dire, mais heureusement, il y avait autour de lui des gens comme Mahalia Jackson qui disaient, hey, oublie le bout intellectuel, oublie d'essayer d'expliquer 300 ans, 400 ans d'histoire, fais juste leur dire c'est quoi ton rêve. Et alors c'est ça qui était poignant pour moi. Puis il y avait un point derrière ça pour mon père. Il me racontait ça pour que je comprenne que c'est sûr que quand on est moindrement intelligent, puis qu'il arrive des choses dramatiques comme ce qui est arrivé dans les 8 derniers jours, on a envie de sortir toutes les griefs qui sont parfaitement légitimes des 400 dernières années, de l'esclavage, de la brutalité, des lynchings, de l'absence de reconnaissance des droits. Mais dans le fond, ce qu'il me disait, c'est reste concentré sur l'émotion que ça crée, l'injustice, puis la capacité d'aller trouver une espèce de sens commun, de consensus avec les gens, peu importe leur couleur, peu importe leurs autres croyances, sur ça, là, sur ce qui nous réunit, ce qui nous rend humains, puis de cette façon-là, on est capable de progresser. Fait que c'est sûr que, comme enfant, me faire raconter ça, puis ensuite, en parler avec mon prof d'histoire de secondaire 2 ou de secondaire 4, c'était quand même surréel. C'est mon père était là. Puis mon père était de ceux qui n'avaient pas le droit de s'asseoir dans l'autobus, puis qui n'avaient pas le droit d'uriner dans les mêmes urinoirs, puis de coucher dans les mêmes hôtels, puis de rentrer par la porte d'en avant dans un... C'est incroyable. Et puis c'est sûr que moi qui n'ai pas vécu ça, ben je le sens émotivement. Cette injustice-là, je la sens comme si je l'avais vécu, alors que j'en ai vécu du racisme, mais jamais à ce niveau-là.
Et il t'a, je dirais, initié à l'histoire de la famille. Ton grand-père, dis-tu dans le texte, est né, lui, sur une plantation et il n'y avait pas de droit, c'était un esclave.
Oui, puis mon père, encore une fois, je sais pourquoi il me racontait ça quand j'étais petit. Il racontait pas ça pour qu'on fasse pitié. Il racontait ça pour dire, regarde, même dans les moments où tu es en colère, même dans les moments où tu trouves que ce sont des injustices qui sont imbuvables, rappelle-toi que nous avons quand même fait des progrès. Quand j'ai acheté ma première maison, mon père, il s'en foutait de c'était quoi la valeur de la maison, puis il s'en foutait aussi de savoir c'était-tu beau, c'était-tu pas beau. Il m'a rappelé cette journée-là, quand je l'ai amené dans ma maison, il m'a rappelé, tu sais, ton grand-père avait pas le droit à la propriété. Bon, regarde, 2 générations, voici où nous sommes rendus. C'est utile d'avoir des gens autour de nous qui sont suffisamment magnanimes, suffisamment bons pour être capable de toujours trouver le bon. Ça veut pas dire qu'il était assis, puis qu'il trouvait qu'on en avait assez fait, puis qu'il fallait arrêter de se plaindre. C'était pas ça. Son point, c'était, regarde, on est en train de progresser. S'il avait vécu, là, pendant toute la présidence de Donald Trump, il aurait dit, On a fait des progrès, forcément, on régresse après. Après ça, on recule. Mais là, la question, c'est de savoir comment on va s'y prendre pour reprendre ce terrain-là. Et mon père aurait dit, regarde, les femmes ont aussi fait des progrès et ensuite ça régresse. Et comment on va faire pour les ramener elles aussi à l'égalité? Et il aurait dit la même chose à propos de tous ceux dont les droits sont, à certains moments, bafoués.
Quand tu dis j'ai connu moi-même, j'ai expérimenté c'est quoi le racisme, pas comme mon père, mais tu l'as vécu à une époque différente, puis qu'est-ce qui est le plus marquant? Il y a sans doute un événement qui sort du lot en disant ça, c'était vraiment un exemple de racisme et je l'ai eu sur la gueule.
Ben, je suis content que tu me poses cette question-là, parce que je me suis moi-même créé mon propre piège en te disant que j'ai pas vécu ça au même niveau que mon père. C'est vrai que j'ai pas vécu ça au même niveau que la génération qui me précède et que la génération avant. Mais tu sais, un peu de racisme, comme disait mon père, c'est beaucoup de racisme. Et on a raison de, comme Québécois, de se dire, hey, on n'est pas fou comme les Américains. Mais je comprends pas qu'on soit pas capable de s'admettre qu'il y en a. Toute cette question, c'est est-ce qu'il y a du racisme systémique ou est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas? Hey, il y en a. C'est tout simple que ça. Moi, j'ai été arrêté par la police là, dans le quartier Côte-des-Neiges. On était à la recherche de quelqu'un de race noire. J'ai eu droit à différents moments à la série de questions de qu'est-ce que vous faites, d'où vous venez, où est-ce que vous allez. J'ai eu droit à ça. Ça m'est arrivé qu'on me dise, ici au Québec, là, dans ma propre vie, hey, on aimerait ça t'engager, mais on a eu une directive de la part de la direction qu'on ne voulait pas de noir. Je me suis occupé d'une fondation qui place des jeunes qui ont eu des difficultés de décrochage, mais qui ont raccroché. Je suis allé moi-même dans des entreprises ici, là, avec des gens gentils, là. Puis là, je suis pas en train de te parler d'il y a 15 ans, il y a 25 ans, là. Je suis en train de te parler de l'année dernière, là. Je suis allé moi-même, moi qui suis une personnalité publique, rencontrer un propriétaire d'entreprise, puis dire, hey, j'ai un des jeunes là qui fait partie du programme qui a pas eu l'emploi chez vous. Puis je veux juste voir quelle est la raison. Puis je me suis fait dire, moi, là, Paul, tu es une personnalité publique par un monsieur très gentil, écoute, il n'y a pas de noir ici. Pour quelle
Mais
raison ça
Grégory, je ne peux
changerait?
pas croire, même si la personne le pense, a pris cette décision-là parce qu'il ne veut pas de noir, il n'aime pas les noirs, je ne peux pas croire que cette personne-là va te dire ça en pleine face.
Ben, moi aussi, je peux pas le croire. Mais Paul, je te dis la vérité. Hey, moi, là, régulièrement dans ma vie, là, et là, je ne suis pas en train de dire que je souffre, là. Moi, là, je suis extrêmement heureux là, d'avoir grandi ici, dans une terre de promesses et une terre d'opportunités fantastiques. Mais j'ai rencontré la semaine dernière, une femme qui m'a dit, qui pesait peut-être pas l'ampleur de ses mots, qui m'a dit, hey, tu sais, moi je suis raciste, mais toi je t'aime bien. Écoute, c'est la semaine dernière. Est-ce que c'est grave? Elle m'a pas dit ça avec un fusil sur la tempe. Elle m'a pas dit ça en me disant retourne dans ton pays. Mais j'ai envie de te dire, dans les milliers de réactions que j'ai eues à ma lettre, j'ai eu 99% de réactions de gens qui ont été extrêmement touchés par ma lettre. Mais j'ai eu un petit pourcent de gens qui m'ont dit « Pourquoi tu ne retournes pas dans ton pays? » Moi qui suis né dans le comté de Drummond. T'sais, fait, on est fou de se dire que ça n'existe pas. Après ça, les degrés, c'est pas si important. Il faudrait juste qu'on reconnaisse que l'être humain a tendance, lorsqu'il a peur de perdre des privilèges, il a tendance à vouloir s'associer à un groupe avec des conditions ou des raisons qui sont bien, bien, bien simplistes. C'est-à-dire, moi, je fais partie des gens de cette couleur-là, moi, je fais partie des gens de cette religion-là, moi, je fais partie des gens de cette classe sociale-là. Puis, il a tellement peur, il ou elle a tellement peur de perdre des privilèges qu'il veut exclure les autres, se pensant menacé. Tu sais, Paul, le kid noir qui fait partie d'un gang de rue, penses-tu que quand il marche dans la rue, il marche avec la tête entre les deux jambes? Ben non. Il ne marche pas avec la tête entre les deux jambes. Il marche fier d'appartenir à quelque chose, même si ce quelque chose-là est tout croche. Parce qu'en bout de ligne, ça lui accorde un privilège. Le travail qu'on a à faire au Québec, comme n'importe où ailleurs dans le monde, le travail qu'on a à faire, c'est qu'on a besoin d'arrêter d'avoir peur pour nos privilèges et de traiter l'autre indépendamment de sa couleur, de son orientation sexuelle, de son genre, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit n'importe qui, peu importe sa provenance, d'essayer d'appliquer la sensibilité à cette personne-là, qu'on veut que cette personne-là ait pour nous. Le bout imbuvable de ce qui s'est passé avec l'officier Chauvin, qui porte un nom quasiment prédestiné.
Prédestiné, ouais.
Le bout imbuvable, c'est qu'il a son genou sur le cou de l'autre pendant 10 minutes. C'est pas un coup de passion, c'est pas un coup de légitime défense, c'est un coup de je m'en tabarouette de ta vie. C'est ça qui fait que on a universellement toute la même réaction. Puis moi, je voulais partager l'expérience de mon père parce que je trouve pas que c'est le moment de sortir les 400 ans d'arguments. C'est le moment de se dire, hey, tout le monde, on est-tu capable de se dire que ça passe pas. Ça, là, cette cruauté incroyable, ça passe pas. Travaillons là-dessus. Et nous, comme Québécois, qui avons pas vécu ce genre de choses-là, mais on a vécu d'autres, des Griffin, puis des Villanueva, puis des... Tu sais, on en a vécu d'autres moments comme ça. On peut-tu nous dire, même si on n'est pas les Américains, on peut-tu nous dire, c'est quoi mon réflexe? C'est quoi mon réflexe à moi, juste comme quand je suis assis chez nous, là? Je parlais avec une autre dame hier que j'ai rencontrée, puis... Elle me disait, mais où est-ce que tu envoies du racisme? Puis je dis, écoutez, je ne suis pas là pour faire la police du racisme, mais je lui ai dit ce que je pensais au fond de moi. Je lui ai dit, vous, comment vous avez réagi quand vous avez lu que le gouvernement va demander des garanties à ceux qui se sont inscrits pour devenir des préposés aux bénéficiaires? Et elle m'a dit, là, c'est comme un guet-apens. Elle m'a dit, mais là, il y a plein d'immigrants là, qui s'inscrivent, là, il va pas falloir qu'on leur donne de l'argent pour apprendre qu'ils s'en aillent ailleurs. Puis je lui ai dit, est-ce que vous êtes inquiète des garanties données au Cirque du Soleil pour 270 millions de prêts? Puis elle a fait comme, non. Mais regarde, c'est ça, là. C'est ça, le soupçon de la discrimination. C'est qu'on se dit, faudrait pas trop aider celui-là ou celle-là parce qu'elle vient de là, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner comme résultat. Ces questions-là, on devrait les avoir automatiquement. C'est quoi notre rapport avec les Autochtones? On est capable de regarder comment les Américains traitent leurs Noirs, mais nous, comment est-ce qu'on réagit naturellement quand il est question des Autochtones? Est-ce que ça nous irrite? Est-ce que ça nous tape ses nerfs? Est-ce qu'on a envie ou pas envie d'avoir cette conversation-là sur le fait qu'ils étaient ici avant nous? Tu sais, c'est ça. Puis encore une fois, je veux que les gens comprennent. On est dans un pays, dans une province incroyablement géniale par rapport au reste du monde. Mais il ne faut pas penser que les êtres humains qui sont ici sont exempts de discrimination, qu'elle soit raciale ou qu'elle soit autre. Puis tous les jours, on a à travailler sur notre capacité d'être sensible envers l'autre, de comprendre qu'est-ce qu'il brutalise, qu'est-ce qu'il brusque, alors que en agissant en ouverture d'esprit, on peut tellement progresser ensemble.
Grégory, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin.
Merci, Paul.
Bonne journée. Grégory Charles. Maintenant, je vais parler avec Richard Châteauvert, qui est à New York. Je le disais, 10e journée consécutive. Encore une fois, Richard, beaucoup de manifestations, assez pacifiques dans l'ensemble. Et il y a eu aussi hier 2 services commémoratifs à la mémoire de George Floyd.
Alors d'abord, les manifestations, Paul, elles ont été pour la plupart pacifiques. Ce qui est remarquable, c'est qu'après 10 jours, il y a des manifestations dans un si grand nombre de villes américaines. À Washington et Los Angeles, les couvre-feux avaient été levés. On sait que la Maison-Blanche a été transformée en forteresse. Ici, le couvre-feu s'applique tous les soirs à partir de 20h jusqu'à 5h du matin lundi. Et lundi, je vous rappelle que c'est la phase 1 de la réouverture de l'économie à New York. Je me suis mêlé encore une fois à un groupe de manifestants hier et je voyais beaucoup de pancartes « Defund the police », interrompu le financement de la police. Mais à Los Angeles, le maire Eric Garcetti a annoncé qu'il réduit le financement de la police de Los Angeles de 100 à 150 millions de dollars. C'est pas rien. Il va réinvestir ces sommes dans les communautés de couleur. À Buffalo, 2 policiers ont été suspendus après avoir projeté au sol un manifestant blanc âgé de 75 ans. Vous pouvez voir la vidéo en ligne. Aucun des policiers présents n'a porté assistance à l'homme étendu au sol, se bornant à faire venir les policiers. Il est dans un état sérieux à l'hôpital. Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a qualifié l'incident de injustifié et de totalement scandaleux.
Maintenant, parlons des 2 services commémoratifs.
Alors, des milliers de personnes y ont assisté ici, à Brooklyn, à un service commémoratif en l'honneur de George Floyd, en présence d'un de ses frères. Et au même moment, à Minneapolis, il y avait le premier de 3 services commémoratifs. Il va y en avoir un au cours du week-end en Caroline du Nord, où est né George Floyd. Et ensuite, mardi, à Houston, où il a passé la majeure partie de sa vie. À Minneapolis, c'est le révérend Al Sharpton de New York qui a prononcé l'éloge funèbre. Et il a établi une métaphore entre le genou dans le cou de George Floyd et le genou dans le cou de tous les Noirs depuis 401 ans. Grégory Charles faisait allusion à l'esclavage qui a débuté il y a 400 ans. C'est en fait en 1609 à Jamestown, en Virginie. Et Al Sharpton a dit « il faut que vous cessiez de mettre votre genou dans notre cou » parce que selon lui, tous les Noirs américains sont des George Floyd.
What happened to Floyd happens every day in this country, in education, in health services, and in every area of American life. It's time for us to stand up in George's name and say, get your knee off our necks.
Ce qui est arrivé à George Floyd arrive à chacun d'entre nous chaque jour dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, dans tous les domaines, et nous allons nous tenir debout. Vous allez retirer votre genou de notre cou. Il a fait allusion à un certain président américain né de mère monoparentale à qui on a demandé de produire son acte de naissance. Évidemment, c'est Barack Obama. Et il a dit, il y a une différence entre ceux qui font un appel à la paix et ceux qui font un appel à la tranquillité. Parce qu'il a dit, il y en a un certain nombre d'entre vous qui veulent toujours que nous tenions tranquilles et que nous souffrions en paix. Les trois autres policiers, il y a Derek Chauvin, 44 ans, on le sait, qui est inculpé de meurtre au deuxième degré, qui pourrait faire face théoriquement à une peine maximale de 40 ans. Les trois autres policiers qui ont été arrêtés il y a deux jours ont fait une première comparution hier et on a appris que l'un d'entre eux n'avait, Paul, que 4 jours d'ancienneté et l'autre en était à sa première journée.
Merci, Richard. On va évidemment suivre ça de très près encore une fois aujourd'hui. Et les manifestations, je rappelle qu'à Montréal, il y en a une qui est prévue dimanche autour de 13h, 7h39.